L'Association québécoise des cadres scolaires vous souhaite la bienvenue sur Balada QCS, une série de balados qui aborde des enjeux de gestion au cœur du réseau de l'éducation. Si je vous demandais de me raconter une expérience de collaboration avec des collègues durant laquelle vous avez dû faire usage de persuasion, de fines stratégies pour atteindre votre objectif. Et là, on ne parle pas nécessairement de ruse ou de vouloir mal faire. Non, non, non. Est-ce que vous auriez une histoire à me raconter? Je suis convaincue qu'il y a un exemple qui vous vient en tête en ce moment. Une expérience qui vous a peut-être fait vivre un beau succès ou peut-être que ça vous a exigé beaucoup d'efforts pour le peu de résultats que vous avez obtenus au final. La capacité d'influencer, c'est un outil extrêmement précieux, pour un cadre scolaire, entre autres. Cette habileté-là peut vous mener très, très loin, professionnellement parlant. Mais saviez-vous que si vous l'utilisez très bien, elle peut aussi profiter à n'importe quelle organisation. Aujourd'hui, à Balada QCS, on parle de sens politique et des nombreuses raisons de le cultiver, entre autres comme gestionnaire.
Très souvent, les gens pensent que bon, le pouvoir, on l'utilise uniquement pour nos propres intérêts, pour faire avancer notre carrière, comme Marie-France le soulignait. Mais comme Audrey l'a très bien articulé, quand on l'utilise pour le bien commun, pour l'organisation, pour que les autres puissent bénéficier des retombées de nos jeux politiques, quand on sert l'intérêt commun, quand on fait avancer des dossiers dont plusieurs personnes pourront bénéficier, là, on peut avoir le sentiment qu'on fait les choses pour les bonnes raisons, qu'on utilise nos habiletés politiques pour les bonnes causes. Et c'est justement ce qu'il faut faire. Les stratèges, ces hommes et ces femmes qui sont très influents, sont toujours dans des postures dans lesquelles ils vont faire appel à leur pouvoir et à leur influence pour que ça serve les intérêts collectifs. Et c'est ce qui est remarquable d'ailleurs.
Le sens politique, c'est pas nécessairement de connaître le nom de nos chefs de parti au Québec. C'est pas nécessairement de connaître les objectifs de notre premier ministre. Oh non, le sens politique, ça a une toute autre définition et c'est un thème que la QCS voulait aborder pour sa série de balados parce que c'est une compétence de gestion qui est fascinante, qui est puissante. L'an passé, on a diffusé un épisode sur l'influence, rappelez-vous. Mais cette fois, on va ajouter une dimension davantage stratégique à nos discussions. Et pour échanger avec moi, M. Pierre Lainé, maître d'enseignement senior département de management HEC Montréal. M. Lainé, vous êtes auteur de plusieurs ouvrages, entre autres sur le leadership, dont la 4e édition de Pouvoir, influence et habileté politique dans les organisations. On ne pouvait pas mieux penser comme invité. Bonjour.
Bonjour, très heureux d'être parmi vous.
Merci d'avoir accepté l'invitation. On sera accompagné de deux dames, entre autres Mme Marie-France Dion, secrétaire générale et directrice service du secrétariat général et des communications au Centre de services scolaires d'Émile-Île. Bonjour Marie-France.
Bonjour Taïna.
Et également Mme Audrey Leblanc, directrice adjointe de l'adaptation scolaire et des services complémentaires au Centre de services scolaires Pointe-de-l'Île. Bonjour Audrey.
Bonjour tout le monde.
Alors, qu'est-ce que c'est le sens politique? Au départ, M. Lainé, on ne parle pas ici de politique en soi. C'est tout autre chose.
Ben, effectivement, c'est tout autre chose. Quand on parle de sens politique, hein, il faut se rattacher à la définition même du mot politique qui est le pouvoir. Alors, le sens politique, c'est de savoir avec qui j'ai du pouvoir. C'est de savoir aussi avec qui j'en ai pas. C'est de savoir aussi quand j'en ai et quand j'en ai pas. Où est-ce que j'en ai? Dans quelles circonstances j'en ai? Dans quelles circonstances que j'en ai pas? Pourquoi j'en ai, mais pourquoi j'en ai pas? Et surtout, combien de pouvoir j'ai? Parce que le pouvoir, c'est essentiellement la capacité de faire faire aux autres ce qu'on veut. Puis quand les gens font ce qu'on veut, ben, on peut conclure qu'on les a influencés. Alors, l'influence est un outil de travail important pour n'importe quel gestionnaire, parce que c'est grâce à notre influence qu'on peut amener les gens à réaliser des choses, on peut obtenir leur contribution, puis on peut ultimement réaliser nos objectifs.
C'est moi ou c'est plusieurs questions en peu de temps? On n'a pas réponse à tout?
Non, ben écoutez, moi, ça fait maintenant 35 ans que je m'intéresse au phénomène et je suis encore en train de trouver des réponses à certaines de ces questions, mais ce sont des questions qu'on devrait se poser parce que trop souvent, on présume qu'on a de l'influence alors qu'on n'en a pas toujours. Et quand on n'a pas d'influence, ben, c'est là qu'on réalise que les choses ne se produisent pas comme on le souhaite. On n'arrive pas à réaliser nos projets, on n'a pas l'appui des collègues, quelquefois, on n'arrive pas à faire passer nos idées dans une réunion. Alors, quand ces situations se produisent, c'est là qu'il faut se poser des questions et se dire, bon, comment je pourrais maintenant aller chercher le pouvoir que j'ai pas en faisant appel, bien sûr, à mes habiletés politiques?
Et est-ce que certaines personnes de notre entourage peuvent avoir l'impression qu'on les utilise comme une marionnette? Le mot « pouvoir », comment je peux l'utiliser, avec qui je peux l'utiliser, dans quel contexte, dans quelles circonstances, ça peut effrayer certaines personnes.
Ah ben vous avez tout à fait raison, Téina, parce que très souvent, malheureusement, le mot « politique » a très mauvaise presse. Hein. Les gens assimilent le mot « politique » à de la manipulation, à des agendas cachés. Et effectivement, il faut être très honnête, ça peut être utilisé à cette fin. Il y a des gens qui font appel à leur pouvoir dans le but de manipuler, de passer leur agenda caché, de faire faire aux autres ce qu'ils souhaitent sans leur divulguer réellement leurs intentions. Et ça, ben, dans ces circonstances, on ne pourra pas affirmer que le pouvoir est utilisé de façon stratégique. Ce qu'il faut, c'est de l'utiliser de façon stratégique, en toute transparence, en toute honnêteté, de dire la vérité aux gens, de ne pas avoir d'agenda caché. Ça permettra de conserver la confiance que les gens nous portent. Parce que sans la confiance des gens, on ne pourra jamais les influencer.
Vous venez de nous partager quelques trucs, conseils. Est-ce qu'on peut croire que le sens politique, c'est une habileté, qu'on peut arriver à mieux maîtriser le sens politique? Est-ce que ça se développe?
Heureusement, oui, parce que je vais vous faire une confidence. Moi, j'en ai pas toujours eu d'habileté politique. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a amené à m'en faire un doctorat, parce que j'ai réalisé dans les travaux que je réalisais, dans les fonctions de gestion que j'occupais, que j'étais pas très bon gestionnaire. Et malheureusement, ce qui me manquait, c'était justement ces habiletés que j'ai appris à connaître, que j'ai développées. Et oui, ça se développe, ça se perfectionne, ça s'enseigne aux autres. Et c'est la raison pour laquelle, à chaque fois que j'en ai l'occasion, j'encourage les gens à développer ces habiletés.
Est-ce qu'il y a des bénéfices à aiguiser son sens politique à court terme, mais aussi à long terme? Donc, on sort nos jumelles, on se projette. Est-ce qu'on peut se décourager un bon matin et de dire « c'est pas pour nous » ou on doit persévérer?
On doit persévérer. Hein? La persévérance, c'est un terme très important dans le milieu de l'éducation, hein, vous le savez. Puis, c'est la même chose pour le sens politique. Il faut persévérer parce qu'il y a des habiletés. Il y en a 5 qu'il faut arriver à maîtriser. Quelquefois, on réalise que pour certaines d'entre elles, il y en a qu'on maîtrise mieux que d'autres. Et quelquefois, on peut se décourager. Mais il ne faut pas se décourager. Et ces habiletés sont quand même toutes simples. La première, c'est de mieux connaître les enjeux des gens. D'arriver à identifier les enjeux des gens, on peut mieux identifier qui seraient nos alliés. La création d'alliances est aussi une habileté politique importante. Ensuite, il faut être capable d'accroître notre pouvoir, c'est-à-dire d'accroître notre capacité de faire faire aux autres ce que l'on souhaite. C'est aussi une habileté. Il faut aussi être stratégique quand on utilise notre pouvoir. Il ne faut pas en abuser. Il faut l'utiliser de façon stratégique dans le but que tout le monde puisse en bénéficier. Et enfin, ben, il faut savoir bien se positionner politiquement dans notre environnement de travail. Parce que lorsqu'on est bien positionné politiquement, on le constate rapidement à travers le comportement des autres à notre égard. Des gens vont venir nous demander conseils, des gens vont venir nous demander des avis, ils vont nous inviter à siéger à leur comité. Alors, quand on est très attractif sur le plan professionnel, ça peut signifier qu'on a effectivement bien maîtrisé ses habiletés politiques.
Et si je crois avoir seulement 3 habiletés sur 5, est-ce que j'ai un bon sens politique tout de même?
Non.
Ah oui, je suis surprise de la réponse. Allez-y, expliquez-nous.
Ouais. Je suis assez catégorique. Il faut maîtriser les 5 habiletés parce que trop souvent, quelques personnes en maîtrisent une ou deux, hein, vont bien connaître les enjeux, mais n'auront pas la possibilité de contribuer aux enjeux de leurs collègues. Alors, quand on a l'influence et qu'on peut aider un collègue à trouver une solution à son problème, quand on peut aider, par exemple, une personne à trouver une issue à sa situation, eh bien, on peut agir sur les enjeux des gens et on crée ainsi ce qu'on appelle une opportunité de réciprocité. Et ces opportunités de réciprocité, c'est extrêmement précieux parce que quand on aide les gens à réaliser leurs enjeux, quand on aide les autres à faire face à leurs enjeux, eh bien, on peut s'attendre à ce qu'éventuellement, les gens soient plus disposés à faire la même chose à notre égard. Donc, c'est une habileté importante, la même que, par exemple, accroître notre pouvoir, c'est important, parce que sans pouvoir, on n'a pas beaucoup d'influence. Alors, toutes ces habiletés doivent être bien maîtrisées si on veut aspirer à devenir un véritable stratège.
Alors, quand on contrôle nos 5 habiletés de base, est-ce que je comprends par d'autres termes qu'on devient aussi dans une organisation la référence, l'expert, le confident? Est-ce qu'on peut porter d'autres chapeaux, d'autres noms?
Oh oui, on peut porter le chapeau de la personne à qui on a confiance et à qui on peut se confier quand on a certains enjeux et on sait que la personne doit faire des efforts pour nous aider. On peut porter le qualificatif d'un collègue avec lequel on aime beaucoup travailler. Puis vous savez, hein, puis votre question est extrêmement pertinente, Téina, parce que lorsqu'on est montre ses habiletés politiques, très souvent, ce qu'on constate, et les recherches l'ont même démontré, c'est que ça va se répercuter dans notre réputation. Puis notre réputation, vous savez, c'est ce que les gens disent de nous quand on n'est pas là. Alors, quand on est très bien dans maîtrise de ses habiletés, souvent, notre réputation, elle est incroyablement positive et cela se répercute sur la qualité des relations qu'on peut avoir avec les autres.
J'ai le goût de demander, Pierre, à nos invités si elles ont bonne réputation. Marie-France Dion, secrétaire générale, directrice service de secrétariat général des communications au Centre de services scolaires d'Émile-Lille. Madame Audrey Leblanc également, qui sont là pour nous partager leur expérience sur leur terrain. Également, comment ça se vit au quotidien. Est-ce que les fondements qu'on vient de partager sur le sens politique avec Pierre, ça a une résonance pour vous? Est-ce que vous maîtrisez les habiletés en général, est-ce que ça a fait une différence dans votre carrière?
En fait, oui, ça occasionne une résonance, là, ce que vous venez de dire, Pierre, là, au niveau des habiletés politiques. Moi, je pense que de maîtriser les habiletés politiques, c'est vraiment un art. Donc, c'est quelque chose qui s'apprend. Il y a une part de tout ça qui est de l'instinct. Je pense avoir, moi, de l'instinct, mais je suis à parfaire ces habiletés-là. Donc, parfois, c'est par essai-erreur.
Audrey, qu'est-ce que ça résonne en vous?
Ça résonne complètement, puis je vais dire que rapidement, assez tôt en carrière, on m'a reflété que j'avais du sens politique. Parce que dans l'aspect du sens politique, il y a le réseau, assurément. Il y a être avenant, il y a une dimension d'intelligence émotionnelle. Et je pense que ce sont des éléments qui font partie de qui je suis. Donc, on me reflétait du sens politique. J'ai besoin de voir quelle est la différence entre l'influence, le rôle stratégique versus le sens politique, parce que je trouvais que tout ça s'entrecoupait. Donc, à la question « est-ce que j'ai bonne réputation? », j'ai envie de dire « il faudrait demander à mon réseau ». Mais je pense que oui. Et quand j'entends comment on se définit le sens politique, je me dis « ah, ben oui, je pense que je suis capable de chacune de ces habiletés-là ». Mais je ne savais pas que ça s'appelait du sens politique. Donc, je suis rendue à un moment dans ma carrière de gestion à avoir une pratique un peu plus réflexive ou d'observation sur mais qu'est-ce qui a pu me profiter dans certains projets, dans certaines idées. Puis là, je suis a posteriori à regarder est-ce qu'il y avait un mode d'emploi que je savais pas qui devait exister puis qui était là. Donc, je suis plus dans ce mode-là à ce point-ci, moi, dans ma carrière.
Pierre, est-ce qu'il y a un mode d'emploi?
Ah ben, il y a un mode d'emploi. Il y a des gens qui ont déjà le mode d'emploi. Hein. Audrey, vous mentionniez que bon, vous avez fait le commentaire à l'effet que vous aviez un bon sens politique. C'est tout à fait possible. Hein. Il y a des gens qui ont ce sens un peu plus naturellement. D'ailleurs, on le voit là, chez les jeunes dans la cour d'école, là, les petits amis qui influencent les petits amis, on va jouer à ceci, on va faire cela. On le voit déjà chez les très jeunes enfants, puis chez les adolescents aussi, là, hein, quand ils ont de l'influence. Et oui, les études démontrent qu'il y a des gens qui ont cette propension à développer ce sens. Hein. Ils font preuve d'une grande intelligence émotionnelle. Ils sont capables de développer leur réseau, comme vous l'avez mentionné, Audrey. Alors, ces personnes ont déjà certaines qualités qui vont leur permettre, justement, plus tard, de capitaliser sur ces qualités, d'avoir et de démontrer un bon sens politique. Et si je peux me permettre de répondre à la question, Teina, moi, je vous confirme que ma référence a une très bonne réputation. Hein. Je la connais, puis je vous confirme que sa réputation, elle est incroyablement positive.
J'aime ça, c'est super. On va pouvoir se lancer des fleurs. Malfrance?
Je pense que c'est important quand on regarde les différentes dynamiques de jeu politique, il faut naviguer à travers tout ça avec de l'intégrité. Et quand on le fait avec intégrité, à ce moment-là, c'est apprécié de notre entourage. Je pense que ça vient justifier notre bonne réputation, là.
Une autre belle force, c'est bien de le mentionner. Ouais. Pierre, j'ai accroché sur un élément dont les dames nous ont partagé, l'instinct. Le sixième sens, sa petite voix intérieure. Sans vouloir faire de sexisme, est-ce que les femmes ont plus de sens politique que les hommes en général? Oh!
Ben, écoutez, je vais vous partager l'état des recherches actuelles. Alors, oui. Les études récentes publiées en 2020, notamment par David Buchanan, Richard Badham, ont démontré que les femmes en général auraient cette propension à être plus habiles politiquement. Alors, bon, les recherches en sont à leur balbutiement. Là, il y a des données de recherche qui nous arrivent, mais il semblerait que oui. Mais ce qu'on constate également, c'est que ça peut sembler paradoxal. Les femmes ont tendance à l'utiliser moins souvent que les hommes dans leur contexte professionnel. Alors, on essaie de comprendre pour quelles raisons, et l'état des études actuellement ne nous permet pas de conclure là-dessus, mais on se questionne pourquoi les femmes auraient tendance à moins faire appel à leurs habiletés politiques que les hommes en général.
Ah, c'est intéressant. Il faudrait approfondir le sujet. Est-ce que c'est un manque de confiance? Est-ce que c'est parce qu'on l'utilise en priorité à la maison plutôt que dans la vie professionnelle? Ça se peut. Est-ce que c'est le syndrome de l'imposteur? Il y a beaucoup de choses. Il y a plusieurs portes qui peuvent être ouvertes là-dessus. J'ai le goût de vous demander, est-ce que le sens politique, c'est une habileté qui est réservée aux gestionnaires, aux supérieurs, ceux et celles qui doivent démontrer un certain leadership? Est-ce qu'on peut enseigner l'habileté du sens politique au personnel au sein de notre équipe, peu importe quel poste qu'on occupe?
Mais spontanément, j'ai envie de dire, je ne crois pas que ce soit réservé aux gestionnaires, tout comme l'influence ou le pouvoir qui, des fois, on va qualifier d'informel. Donc, ce leadership-là peut exister, je pense, indépendamment du titre de la personne. Puis pour revenir sur mon exemple, j'étais dans une posture de professionnelle alors qu'on me reflétait avoir bien saisi le fonctionnement de l'organisation et comment naviguer dans la proposition, dans les recommandations d'idées, alors que j'étais en posture d'être expert de contenu et non d'être dans une posture de décideur à ce moment-là. Être basé là-dessus, ce n'est pas réservé. Maintenant, est-ce que ça s'enseigne?
Probablement qu'il faut savoir cerner la bonne personne au sein de l'équipe qui peut développer cette capacité. Pierre, je vous vois acquiescer la tête.
Acquiescer, eh bien oui, Audrey, hein, moi j'enseigne le sujet depuis 24 ans à HEC. Ça peut être des habiletés qu'on peut apprendre à utiliser, qu'on peut acquérir, mais encore faut-il avoir de la motivation de le faire. Hein? Et des fois, la motivation peut être variable d'une personne à l'autre.
Marie-France, est-ce qu'il y a déjà quelqu'un dans votre équipe qui a levé la main pour dire « j'aurais un intérêt à développer, à en apprendre davantage, vous m'inspirez même à un certain niveau? »
Oui, absolument. Et j'ai même invité cette personne à suivre les formations de Pierre sur le sujet. Moi, je pense que ce n'est pas un acte qui est réservé là, aux gestionnaires uniquement. Je pense que cette compétence-là peut être développée par nos employés également. Ils ont parfois des projets à faire passer auprès de leurs collègues, soit dans le même service ou dans un autre service administratif. Et d'avoir cette connaissance-là du jeu politique peut certainement les aider là, à atteindre leur objectif. Donc, ce n'est pas réservé là, uniquement aux gestionnaires.
Bonjour, ici Jean-François Parent, PDG de l'Association québécoise des cadres scolaires. Si vous vivez des difficultés au travail, l'AQCS peut vous offrir un accompagnement précieux et vous représenter dans la défense de vos droits. Notre équipe répond à vos questions liées à l'interprétation, à l'application et au respect des conditions de travail, et ce, en toute confidentialité. Avec vous, nous allons trouver des solutions.
Mesdames, est-ce que vous avez déjà eu l'impression d'être pointée du doigt en faisant preuve de sens politique? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des gens qui disaient « Marie-France et Audrey, je ne sais pas à quel point ils agissent bien en ce moment. » Est-ce que vous croyez qu'il y a des risques d'en faire mauvais usage du sens politique? On a parlé de manipulation d'entrée de jeu, la perception des gens. Est-ce qu'il va venir à ses fins plus facilement, autrement? Je veux vous entendre là-dessus. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir, bien sûr, fait preuve d'intégrité, d'authenticité, de transparence, mais qu'à un moment donné dans votre carrière, il y a des gens qui vous ont moins bien perçu?
En fait, moi, je n'ai pas eu personnellement à me faire pointer du doigt parce que j'avais fait un usage abusif de mes habiletés politiques. Maintenant, c'est certain que dans le cas où une personne utilise le jeu politique uniquement pour avoir, par exemple, une promotion, ça peut être mal perçu, ça peut être perçu comme un peu de la magouille chez certaines personnes. Donc, mais personnellement, ce n'est pas une situation que j'ai vécue. Heureusement, je dirais.
Je pense que quand on se place au service du dossier et qu'on est en phase avec les orientations, les priorités, notre mission, on se prémunit contre peut-être la critique individuelle à l'effet que, tu sais, on flirte de très près avec est-ce que c'est de l'insubordination, des fois, que de vouloir s'asseoir avec un autre service, avec d'autres gestionnaires, avec quelqu'un qui hiérarchiquement a un titre plus élevé pour valider, pour s'assurer que le projet tient la route? Est-ce que c'est une fausse bonne idée, ce projet-là? Parce que souvent, moi, j'étais dans un contexte de développement ou d'innovation. Mais je pense que dès qu'on le met au service de l'organisation, c'est pas pour des fins personnelles. Il faut être capable de le voir, de voir plus grand que soi dans cette démarche ou l'exercice du sens politique.
Pierre, ça sonne doux à vos oreilles?
Ah, c'est de la musique à mes oreilles, effectivement, parce que très souvent, les gens pensent que bon, le pouvoir, on l'utilise uniquement pour nos propres intérêts, pour faire avancer notre carrière, comme Marie-France le soulignait. Mais comme Audrey l'a très bien articulé, quand on l'utilise pour le bien commun, pour l'organisation, pour que les autres puissent bénéficier des retombées de nos jeux politiques, quand on sert l'intérêt commun, quand on fait avancer des dossiers dont plusieurs personnes pourront bénéficier, là, on peut avoir le sentiment qu'on fait les choses pour les bonnes raisons, qu'on utilise nos habiletés politiques pour les bonnes causes. Et c'est justement ce qu'il faut faire. Les stratèges, ces hommes et ces femmes qui sont très influents, sont toujours dans des postures dans lesquelles ils vont faire appel à leur pouvoir et à leur influence pour que ça serve les intérêts collectifs. Et c'est ce qui est remarquable d'ailleurs.
Je pense qu'un des risques de faire un mauvais usage des habiletés politiques, c'est de perdre du pouvoir par sa propre faute. Et ça, ultimement, on peut ternir sa réputation, on peut perdre la confiance des gens. Donc, il faut être stratégique quand on utilise le jeu politique, à mon avis.
On peut devenir notre pire ennemi à soi-même. Volontairement, est-ce que vous pensez qu'on peut choisir de ne pas développer ou de ne pas utiliser son sens politique à temps plein, à temps partiel, pour certaines occasions? Est-ce qu'on doit apprendre à équilibrer la façon dont on s'en sert ou tout simplement dire « je suis consciente que j'ai cette capacité » mais je préfère ne pas m'en servir.
Je pense qu'il faut y aller avec dosage et je vais dire appuyer, en faire usage à la bonne hauteur pour ce qui est souhaitable pour l'organisation. Fait que je reviens encore pour le bénéfice commun, c'est-à-dire que de choisir d'agir avec grande influence sur un dossier, sur un objet qui n'est pas la priorité de l'organisation ou pour lequel ce n'est peut-être pas le moment, je pense que l'on peut brûler. Ça. Fait que c'est pour ça que, oui, usage parcimonieux, mais réfléchi aussi. C'était, ça prend une articulation stratégique de quand est-ce qu'on l'utilise. Et de choisir de ne pas l'utiliser aussi, ce ne sont pas tous les dossiers, les projets ou les idées qui ont besoin de profiter d'un appui ou d'un élan d'influence, davantage de pouvoir, d'un ancrage ou davantage de collaborateurs. Ils vivent bien d'eux-mêmes. Et je pense que c'est correct ainsi.
Et je me permettrais de rebondir sur votre commentaire, Audrey, parce que c'est tout à fait juste. Hein. Il ne faut pas là, en faire trop. Là. Il y a des gens qui voient de la politique partout. Là. Ils arrivent en réunion, ben là, oh, je ne m'assois pas à côté d'elle, puis lui, je vais lui apporter un café. Puis il ne faut pas aller jusque-là. Là. Puis les situations ne sont pas toujours politisées, vous savez. Hein. Il faut savoir faire preuve de dosage et de dire, OK, là, dans telle situation, il faut que je me trouve des alliés. Il faut que j'arrive à bien circonscrire les enjeux. Il faut que j'aille chercher l'influence que j'ai pas auprès de telle et telle personne parce que si je ne réussis pas, le projet va peut-être bloquer. Donc, c'est tout un ensemble de réflexions qu'il faut se faire pour cibler les situations dans lesquelles faire appel à ses habiletés politiques est essentiel.
Est-ce qu'on peut se baser sur certaines de ces questions pour savoir, pour juger, est-ce que c'est un bon moment? Est-ce que je suis en mesure de me servir de mon sens politique? Est-ce que ce sont ces questions-là qu'on doit se poser nous-mêmes?
Ben, oui, parmi ces questions, il y en a qu'on devrait se poser soi-même. Le défi, c'est d'avoir des réponses. Les réponses, on ne les a pas toujours. Alors moi, ce que je conseille aux gens, j'ai dit, écoutez, bon, on parlait d'intuition. L'intuition peut être un bon guide aussi en disant, oh, là, j'ai l'intuition que la personne ici, j'ai tenté de la mobiliser dans tel dossier, je sens que cette mobilisation n'est pas très bonne. Peut-être que je n'ai pas l'influence nécessaire, peut-être que le pouvoir que je pensais avoir, je ne l'ai pas. Donc, d'observer le comportement des gens, c'est le meilleur indicateur. Et dans l'incertitude, présumez toujours que vous avez peu de pouvoir. Ah. Et présumez toujours que les gens avec qui vous transigez seront vos alliés. Ça, c'est ce que moi j'ai appelé un petit peu pompeusement le test de l'alliance. Le test de l'alliance, c'est lorsque vous avez un projet à réaliser, vous avez une idée à mettre de l'avant, mais vous n'êtes pas tout à fait certain ou certaine que vous avez de l'influence, présumez que vous n'en avez pas. Allez voir vos alliés, demandez leur conseil. Qu'est-ce que tu penses de cette idée? Est-ce que tu penses que ça tient la route? Est-ce que tu serais prêt à contribuer à ce projet? Qu'est-ce que tu penses que je devrais dire à telle personne? Et dans les réponses qu'on va vous donner, là, vous aurez la confirmation qu'effectivement, la personne avec qui vous transigez, avec qui vous êtes en conversation, c'est effectivement un allié de bons conseils, qui va vous donner des trucs et des astuces pour vous aider justement à faire appel à votre influence. Donc, c'est moi j'appelle ça le principe de précaution. C'est toujours mieux de présumer qu'on a moins de pouvoir que de présumer qu'on en a trop ou qu'on en a beaucoup. Hein. Les gens qui pensent avoir beaucoup de pouvoir, souvent, ça leur a joué de mauvais tours. Hein. Les gens pensent que moi, j'ai du pouvoir, moi, j'ai de l'influence. Ils ont réalisé, malheureusement, qu'ils n'en avaient peut-être pas tant que ça. Mmh. Et les gens préfèrent toujours qu'on fasse preuve d'humilité, qu'on soit plutôt dans une approche où on demande, on sollicite conseils, on sollicite des avis. Et généralement, ça rend les gens plus disposés à nous partager leurs conseils.
Marie-France Audrey, comment vous vous êtes aperçue que vous aviez un sens politique?
En fait, en ce qui me concerne, j'ai suivi des formations, notamment auprès de Pierre. J'ai réalisé que j'avais certaines habiletés politiques. Comme j'ai dit au début, c'est toujours à parfaire. Lorsque j'ai réussi à bien identifier certains enjeux dans mon organisation, où je suis allée me chercher des alliances, j'ai même rallié des opposants à un projet que je souhaitais mener à terme et que le projet a fini par aboutir. Donc, j'ai compris à ce moment-là que j'avais quand même certaines habiletés là.
Audrey?
Il y a eu un projet auquel je pense spécifiquement pour lequel rapidement j'ai eu l'aval d'aller de l'avant et des réponses très spontanées de services ou collègues collaborateurs où j'ai quasiment eu un petit vertige de « Oh mon Dieu, j'aurais anticipé avoir eu besoin de mieux structurer l'idée, de retourner faire quelques devoirs. » Et là, cette approbation-là, assez rapide pour moi, m'a renvoyé, a été le reflet de « Je crois que… » Bon, l'idée, certes, arrivait à un moment, une réponse à certains enjeux, mais j'ai réalisé un peu la portée que je pouvais avoir dans ma façon de représenter le dossier. Puis peut-être sur des éléments qui étaient placés dès le départ là, avec M. Lenné sur des éléments de réputation. Donc, quand on a connu certains succès, apporté certaines idées, après, le projet peut être dédouané peut-être plus rapidement.
Ce n'est pas le thème du balado, mais ça pique probablement la curiosité de bien des gens. Marie-France, quand vous avez dit « Mettons les opposants dans notre petite poche », ah, comment on fait ça? Je suis persuadée qu'il y en a plein qui se sont dit « On prendrait peut-être un ou deux trucs ».
En fait, c'est pas toujours simple, mais je pense qu'il faut bien expliquer le projet. S'assurer qu'il vise un but commun aussi. Si on fait un projet que, je le mentionnais un petit peu plus tôt, que pour sa propre personne, pour avoir une promotion, par exemple, c'est possible que les opposants ne se rallient pas. Mais quand c'est un projet qui est commun, qui vise une amélioration des services, par exemple, c'est plus facile à ce moment-là d'aller chercher les opposants. Et je suis certaine que Pierre est du même avis que moi.
Je suis du même avis, absolument. Puis, vous savez, hein, les opposants, quelquefois, leur opposition peut être légitime aussi. Hein? Et je suis convaincu que plusieurs de nos éditeurs et de nos auditrices se sont déjà retrouvés dans une posture d'opposition en disant « Hey, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, là, je ne ferai pas ça de même. » Puis, on est légitimé dans notre opposition. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand les gens viennent nous voir et nous disent « Écoute, dis-moi pourquoi tu t'opposes. J'aimerais t'entendre. C'est quoi les enjeux qui te semblent importants? » Bien là, c'est déjà une façon de nous rallier. Alors, hein, ne présumez jamais que les opposants, c'est des gens qui sont de mauvaise foi. Au contraire, leur opposition pourrait être tout à fait légitime. Et comme Marie-France, vous l'avez souligné, d'aller les voir, de mettre de l'avant un objectif commun et d'en montrer qu'ils pourraient contribuer à cet objectif et qu'on valoriserait leur contribution, eh bien ça peut nous aider à rallier nos opposants.
Et parfois, on s'entend plus facilement sur l'enjeu, l'objectif, que sur le moyen. Puis le projet en soi, c'est un moyen. Donc, qui bénéficierait de la résultante? Ça nous aide à identifier nos alliés potentiels. Mais ramener la discussion sur l'objectif peut parfois nous ouvrir. Puis j'ai envie de dire, et possiblement, si on a révisé le moyen, ça se pourrait aussi. Ça se peut que les projets n'aboutissent pas tous, et c'est tant mieux.
L'importance de l'écoute des opposants. Ils ont souvent plusieurs choses à dire. Il faut tendre l'oreille parce que c'est possible que le projet prenne une tangente un petit peu différente, puis on s'ajuste. Mais de les inclure, pour moi, c'est évident que c'est gagnant.
Qu'est-ce que vous aimeriez que les gens retiennent de ces dernières minutes en votre compagnie?
En fait, moi, j'aurais un conseil pour les nouveaux gestionnaires et même les gestionnaires plus chevronnés, mais qui changent, par exemple, de centre de service scolaire. L'importance d'observer quand on arrive dans un nouveau milieu, de décoder les enjeux, d'observer, d'écouter aussi. Tantôt, on parlait d'écouter les opposants, mais évidemment, écouter les éventuels alliés. Peut-être s'adjoindre un mentor qui va nous expliquer comment fonctionne la culture organisationnelle. Pour moi, ce sont des moyens importants pour éventuellement bien fonctionner dans l'organisation et utiliser nos habiletés politiques pour arriver à nos objectifs.
On met toutes les chances de notre côté. Audrey?
En fait, je rejoignais beaucoup Marie-France dans mon conseil, surtout que je suis dans ce contexte-là actuellement. Je lancerai l'invitation à développer un réseau, mais développer un réseau pas au sens de connaître beaucoup de gens, d'avoir beaucoup d'amis, mais d'être vraiment dans une relation authentique pour comprendre qui fait quoi au sein de l'organisation. Pour arriver à exercer cette intelligence situationnelle-là, il faut comprendre le système. De façon aussi simple que d'aller à la rencontre des gens, si on est dans le même contexte qu'exposait Marie-France, « Mais que fais-tu, toi, ici? » De quoi tu t'occupes? Nomme-moi des mots-clés que je dois associer à qui tu es, à ce que tu fais. De cette façon-là, je pense qu'on sera capable après de mettre en relation nos idées avec les bonnes personnes du système.
Pierre, est-ce que vous diriez que qu'est-ce qu'Audrey fait aussi, c'est bien sûr développer le sens politique, placer ses pions, mais avant tout s'intéresser à l'humain aussi qu'on côtoie?
Oh, absolument. Hein. L'humain est au cœur des habiletés politiques. C'est l'élément le plus déterminant dans l'équation. Alors, si j'avais un conseil à donner, je dirais aux gestionnaires et à n'importe quelle personne dans quelque organisation que ce soit, accueillez les habiletés politiques comme n'importe quelle autre habileté, que ce soit en gestion de projet, que ce soit en communication. C'est une habileté qui s'apprend, qu'on peut acquérir, qu'on peut développer, puis il faut embrasser ces habiletés et surtout les utiliser lorsque les situations l'exigent.
Pierre, Marie-France, Audrey, ça a été un plaisir de vous recevoir et on a appris beaucoup en votre compagnie aujourd'hui. En ce qui concerne notre public à l'écoute, vous savez qu'on est toujours intéressé à recevoir vos commentaires, toujours dans un but constructif. Également, savoir qu'est-ce qui vous intéresse, qu'est-ce qui vous interpelle. Alors, si vous avez des thèmes que vous souhaitez partager avec nous, vous pouvez toujours nous joindre sur le site Internet de la QCS. Alors, sur ce, merci beaucoup, Audrey, Marie-France, Pierre. Prenez soin de vous et on se dit à bientôt pour notre public. La QCS remercie le comité de perfectionnement des cadres et des gérants, ainsi que la personnelle, assureur de groupe auto, habitation et entreprise, pour leur soutien dans la production de la série Balada QCS.